Amicus Radio, en partenariat avec Labyrintho, présente une série d'épisodes pour parler de ces moments névralgiques où art et droit s'entrecroisent, en dévoilant ainsi des rapports cachés qui les lient. Ce que le droit nous apprend de l'art, ce que l'art nous apprend du droit, et ses rapports de pouvoir voilés et implicites. Épisode 26, Défenseur de l'environnement contre Van Gogh, avec Nathalie Hanick et Michel Forst. Octobre 2022. Deux jeunes entrent dans les salles de la National Gallery de Londres en portant subrepticement une substance fluide de couleur rouge. En s'arrêtant dans l'une des salles, les jeunes projettent la substance rouge sur le tableau de Van Gogh, dénommé « Vase avec 14 tournesols » et collent ensuite leurs mains au mur.
What is worth more, art or life? Is it worth more than food? Worth more than justice? Are you more concerned about the protection of a painting or the protection of our planet and people? The cost of living crisis is part of the cost of oil crisis. Fuel is unaffordable to millions of cold, hungry families. They can't even afford to heat a tin of soup.
Qu'est-ce qui est plus important, l'art ou la vie? Elles seront arrêtées par le service de sécurité, puis mises dans les mains de la police pour être inculpées et présentées devant les juges. Les deux attaquantes s'identifient comme militantes de Just Stop Oil, un groupe de défenseurs de l'environnement, et justifient leur acte comme faisant partie de la lutte pour le droit à un environnement sain. Qu'est donc, juridiquement, un défenseur de l'environnement? Quelles sont les particularités juridiques de ce type d'encadrement? Mais surtout, pourquoi s'attaquer à une œuvre d'art et à Van Gogh en particulier? Quatrième épisode d'une série de 5 sur art, droit et écologie. Le vaste chantier du droit de l'environnement affiche clairement sa couleur internationaliste. Pour comprendre la définition de défenseur de l'environnement, c'est donc à un traité international que nous allons nous intéresser aujourd'hui afin d'enrichir notre paysage conceptuel sur la thématique. Dans notre premier épisode de cette mini-série, Magali Lafourcade nous a présenté certaines des méthodes existantes pour faire valoir les droits de la nature. En plus du devoir de vigilance, elle nous a notamment présenté une convention signée au Danemark le 25 juin 1998 par 39 États. Ils sont 49 en 2023.
Alors, il y a une convention particulièrement intéressante qui n'est pas récente puisqu'elle a été créée en 1998. C'est la convention d'Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement. Cette convention comporte trois grands piliers. Le premier étant le droit à l'information, le second le droit à la participation et le troisième l'accès à la justice. Le droit à l'information est particulièrement intéressant. Par exemple, si on prend le cas des mégabassines, on voit que sous cette convention, nous devons pouvoir avoir accès à une information de qualité pour savoir qui est derrière la société anonyme qui va gérer l'eau qui sera retenue dans les mégabassines, combien il y aura de bénéficiaires, quels seront le profil de ces bénéficiaires et aussi quel sera l'impact sur la potabilité de l'eau. Donc on devrait pouvoir accéder à toutes ces informations-là. Et c'est de ce niveau d'exigence en fait que la convention d'Aarhus porte. Le droit à la participation, c'est le fait de pouvoir être consulté sur les décisions qui nous concernent, et on voit tout le bénéfice de la consultation du public pour que les projets, quand les personnes sont dûment informées, puissent voir le jour de façon informée et consensuelle. Et enfin, il y a l'accès à la justice. Il n'est pas normal que des journalistes puissent être poursuivis pour avoir couvert des activités de défenseurs de l'environnement. Il n'est pas normal d'avoir des difficultés pour les activistes du climat ou de l'environnement pour accéder à la justice, que la justice soit onéreuse ou qu'ils aient des entraves dans la reconnaissance de leur intérêt à agir. Et enfin, il n'est pas non plus normal que l'exécutif n'exécute pas certaines décisions de justice. Donc on voit que l'accès à la justice revêt plusieurs volets. Les SLAP, les procédures bâillons, les abus des procédures juridictionnelles contre les défenseurs de l'environnement et du climat, mais aussi la question des entraves à l'accès à la justice par une justice trop compliquée, trop onéreuse, ou qui rend des jugements dans des délais trop lointains. Et enfin, la question centrale de l'exécution des décisions de justice.
Les abus de procédures juridictionnelles contre des défenseurs de l'environnement et du climat, nous dit Magali. Qu'en est-il de cela concernant cette attaque dirigée contre le tableau « Vase avec 14 tournesols » de Vincent Van Gogh ? Cette action, qui s'inscrit dans plusieurs actions similaires menées par des militants écologistes, peut également nous permettre d'éclairer la place de la création artistique dans la société et sur des formes dans lesquelles l'art a une incidence sur les questions environnementales. Disons-le tout de suite, il n'y a pas eu de destruction, même pas d'affectation d'œuvres d'art, ni dans cette action, ni dans d'autres similaires menées par des militants de Just Stop Oil. En effet, ils se sont attaqués à des œuvres protégées, dans le cas de Van Gogh par une vitre, et ont utilisé des matériaux qui ne pouvaient pas créer une affectation permanente à l'œuvre. Nous pouvons écarter directement une intention de nuire, notion liée à celle d'abus du droit, en tout cas en ce qui concerne l'attaque aux œuvres. Reste nonobstant la question, pourquoi s'attaquer à des œuvres d'art, et notamment dans notre cas à une œuvre d'art de Van Gogh ? Dans une interview au magazine d'art contemporain Frieze, les deux militantes impliquées expliquaient que ce choix n'était pas le fruit du hasard. Elles ont notamment indiqué qu'elles avaient l'intention d'attaquer un Warhol pour le côté méta d'une telle action, puisqu'en effet la substance rouge semble être de la soupe de tomates, Heinz en absence de Campbell, cette icône qui a joué un rôle dans la consécration de l'artiste américain. Elles disent nonobstant s'être inclinées sur Van Gogh et expliquent que la beauté de l'œuvre, plus la biographie de l'artiste, pauvre, souffrant, victime du système, offraient cohérence entre leur acte et leur cible. Nous constatons néanmoins que le trait commun des cibles choisies par les militants est d'être des œuvres d'artistes avec une renommée incontestable. Nous avons demandé à la sociologue au CNRS, Nathalie Hennig, qui a notamment travaillé sur la sociologie de l'art, le statut d'artiste, la perception esthétique et récemment sur la question des valeurs, de nous raconter ce qu'il en est de cette renommée concernant Van Gogh, puisqu'elle lui a consacré en 1992 le livre « La gloire de Van Gogh, essai d'anthropologie de l'admiration ».
Le nom de Van Gogh a une connotation très forte parce que depuis qu'il a été sorti de l'invisibilité et de l'anonymat, c'est-à-dire depuis en gros le début du XXe siècle, sa notoriété, sa reconnaissance comme artiste s'est étendue en sortant peu à peu des cercles de spécialistes pour aller vers le grand public. Bon, et c'est vraiment génération après génération cette extension de l'admiration et de la reconnaissance envers son œuvre qui s'est produite et que j'avais analysée dans mon livre « La gloire de Van Gogh » en essayant de comprendre comment ce processus s'était produit, comment on était passé donc d'une sorte d'invisibilité de son œuvre et de sa personne à un statut extraordinairement reconnu dans le monde entier, et pourquoi il y avait toute cette interrogation autour du prix de ses tableaux. Bon, et donc voilà, je ne vais pas développer ça parce que c'est un peu le point de départ de ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est le résultat de ce processus qui fait que en deux ou trois générations, Van Gogh est devenu un artiste emblématique de la peinture moderne, et ça c'est très important, c'est ni la peinture classique ni l'art contemporain, pour le grand public. Du coup, son aura s'est un peu modifiée puisque autant dans la première génération, c'était un artiste qui pouvait être considéré comme un artiste pour initier, un artiste pour les privilégiés qui connaissent l'avant-garde artistique, autant peu à peu, il est devenu un artiste synonyme de grand public et donc relativement vulgaire pour les connaisseurs et les spécialistes. Donc il a, selon le lieu d'où l'on se place, soit il peut être considéré comme un très 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 grand artiste unanimement célébré, et ça c'est la version grand public, soit comme un artiste un peu trop populaire pour être vraiment un grand artiste. Et ça, c'est la version des spécialistes. Et notamment, aujourd'hui, en art contemporain, Van Gogh est quelque chose qui n'intéresse absolument pas le monde de l'art contemporain. Il est hors champ, hein, tout simplement, parce que, comme j'ai expliqué dans mes livres sur l'art contemporain, le paradigme de l'art contemporain exclut totalement le paradigme moderne. Bon, voilà. Donc, en gros, Van Gogh est has-been pour les spécialistes. Voilà. Mais il reste extrêmement populaire pour le grand public, à la fois en raison de sa peinture, les qualités spécifiques de sa peinture, à la fois moderne, originale, personnelle, accessible, et en même temps pas trop classique, mais pas trop avant-gardiste non plus. Hein, c'est une sorte de compromis qui fait qu'il est accessible immédiatement, y compris à des gens qui n'ont pas une grande culture picturale. Et en même temps, donc d'une part en raison de sa peinture, mais aussi et beaucoup, et c'est ce que j'ai montré dans mon livre, en raison de sa biographie. Cette idée du grand artiste qui se sacrifie pour son œuvre, qui il laisse sa santé physique, sa santé mentale et jusqu'à sa vie, puisqu'il se suicide, est une idée qui évidemment a énormément marqué les esprits et qui est un des grands motifs de l'extraordinaire aura dont il va bénéficier dans le courant du XXe siècle.
À la lecture du livre « La gloire de Van Gogh » de Nathalie Hennick, nous sentons une incohérence entre les traits attribués par les militantes à Van Gogh pour expliquer leur choix et ce que laisse entrevoir la biographie de l'artiste et les faits décrits par la sociologue. En effet, les militantes décrivent un artiste qui subit l'indolence du système, tandis que dans le texte de Hennick, nous pouvons voir que ce statut de victime a été attribué par la société dans la construction du personnage. À partir de la lecture de la correspondance de Van Gogh, il apparaît que sa condition, par exemple de précarité, relève plus du choix de s'offrir entièrement à la création artistique que du fait d'un système oppresseur et inconsidéré. Afin d'écarter le plus possible la possibilité d'anachronisme, nous avons demandé à Nathalie Hennick de faire une mise à jour entre le moment d'apparition de son livre en 1992 et aujourd'hui.
Ce qui s'est passé depuis ce que je décris dans mon livre, c'est-à-dire les premiers temps de la sortie de Van Gogh hors de l'anonymat, c'est que aujourd'hui, donc plus d'un siècle après cette première exposition personnelle à la Galerie Bernheim en 1901, bon, qui a été vraiment le point de départ de sa reconnaissance dans le milieu lettré, Van Gogh n'incarne absolument plus l'avant-garde. Hein. Il pouvait incarner l'avant-garde il y a un siècle et une génération, hein, voilà, 125 ans, disons. Mais aujourd'hui, plus du tout, parce que la peinture moderne a été totalement intégrée dans la culture commune, disons, avec Picasso, Monet, etc. Bon. Et par ailleurs, le paradigme de l'art contemporain est venu dépasser le paradigme moderne en matière d'avant-garde et le rendre caduque. Disons que l'art contemporain joue aujourd'hui pour la peinture moderne le rôle que du temps de Van Gogh, la peinture moderne jouait par rapport à l'art classique. Hein, voilà. Donc Van Gogh n'est plus du tout avant-gardiste, mais il est grand public, en partie parce qu'il n'est pas totalement avant-gardiste, hein, et donc parce qu'il est facilement assimilable par des gens qui n'ont pas forcément une culture très développée de l'histoire de l'art.
Est-ce que le fait de ne pas incarner l'avant-garde, d'être accessible et grand public, d'être considéré has-been pour les spécialistes, joue un rôle dans notre histoire? Cette position a-t-elle un impact sur les effets sociaux et juridiques de cette action? Avant d'approfondir ces aspects, regardons d'un peu plus près l'enveloppe juridique de cette affaire. Comme conséquence de leur action, les deux militantes ont été portées devant le juge, et ce dernier a décidé d'établir quelques restrictions en attendant leur jugement. Il a par exemple ordonné qu'elles devaient rester éloignées des musées. Leur jugement devait se tenir en 2023, mais il a finalement été reporté à 2024. Il est difficile pour nous de discerner les informations, parce qu'après celle dans la National Gallery, les deux activistes ont mené d'autres actions qui les ont conduits devant les tribunaux. Néanmoins, plusieurs critiques sont récurrentes, principalement pour dénoncer les mesures prises par la police et les restrictions imposées par les juges. Étant donné leur statut de défenseur de l'environnement, Nous avons voulu clarifier cette notion et nous avons eu la chance d'interroger Michel Forst, rapporteur spécial des Nations Unies pour les défenseurs de l'environnement, dans le cadre de la Convention d'Aarhus, afin de nous aider à synthétiser la définition des Nations Unies.
Nous avons, grâce aux Nations Unies, maintenant une définition assez claire de qui sont les militants pour l'environnement, pour la Terre, pour la justice climatique, qui a été rappelée à plusieurs reprises aux États lors de grandes réunions, Conseil des droits de l'homme, mais aussi l'Assemblée générale des Nations Unies, qui définit un défenseur de l'environnement comme une personne qui simplement essaye de défendre l'environnement, la Terre, la justice climatique, et qui, parce qu'elle défend la Terre, l'environnement, la justice climatique, est victime de menaces, d'attaques, et donc a un besoin de protection qui lui est garanti par les Nations Unies.
Le déterminant téléologique dans la définition est dominant, et l'intention des militantes est claire. Elle rentre donc, sans l'ombre d'un doute, dans la définition de la catégorie énoncée par Michel Forst. Dans le podcast Unitaire, qu'il tient avec Magali Lafourcade, il a largement développé la notion et les limites de la protection. Nous vous invitons vivement à aller écouter leur podcast, notamment l'épisode 3, Activistes du climat et désobéissance civile, sorti le 12 octobre 2023 sur Amicus Radio. Disons que de l'écoute de l'épisode, il ressort que les critères pour qualifier une action de désobéissance civile sont d'abord que l'action soit publique, ensuite que l'action soit non violente, après que les auteurs soient conscients d'enfreindre la loi et soient en disposition d'en subir les conséquences, et finalement que l'action soit menée pour lutter contre une cause injuste. Ces caractéristiques permettent que l'action soit considérée comme de la désobéissance civile et en conséquence couverte par le droit international. Pour approfondir cette thématique, vous pouvez trouver le lien vers l'épisode d'Unitaire dans la page de l'épisode. Michel Forst nous décrit brièvement le panorama général du phénomène dans lequel s'inscrit le cas qui nous intéresse.
Je vois à l'heure actuelle beaucoup de militants du climat, militants pour la justice climatique, qui, parce qu'ils utilisent des méthodes ou des formes nouvelles de militantisme comme la désobéissance civile, sont arrêtés, menacés par la police, traduits en justice, victimes de traitements parfois choquants, qui parfois s'apparentent à de la torture de la part de policiers. Et ils le font pour protester contre l'inaction des États sur l'évolution du monde à l'heure actuelle et notamment l'absence de réaction sur la question du climat. Et ils utilisent des formes de militantisme qui, bien évidemment, sont une disruption de la vie quotidienne, comme par exemple bloquer un accès à une autoroute, aller faucher un champ transgénique ou jeter de la peinture sur un monument ou sur un tableau. Mais il faut comprendre la finalité de l'acte qui est d'attirer l'attention non seulement sur l'acte lui-même, mais sur les raisons pour lesquelles ils ont décidé de franchir la barrière de la loi et donc de s'affranchir de la loi nationale. C'est une désobéissance qui, comme son nom l'indique, désobéit la loi et donc ils sont prêts à affronter la loi parce qu'ils pensent que la cause en vaut largement la sanction.
Mais pourquoi si, en plus de la protection internationale, l'urgence climatique profite d'un consensus étendu et d'une légitimité incontestable, ces actions de police et sanctions judiciaires ont persisté. Parmi les multiples réactions de la société civile, nous avons constaté un problème de légitimité, non pas concernant les objectifs et les causes, mais des méthodes utilisées par les militants. Concentrons-nous sur ce qui concerne notre axe d'intérêt, à savoir l'attaque à des œuvres d'art. Faisons tout de suite une clarification terminologique. Comme nous l'avons dit, les militantes n'ont pas vraiment attaqué des œuvres, mais nous continuerons à utiliser cette expression parce que même si les militantes ont attaqué en réalité des vitres, ce qui était visé n'était pas les vitres, ou bien l'encadrement, mais il s'agit, nous croyons, d'une attaque symbolique à des œuvres. Ou, pour aller plus loin, une attaque qui visait à toucher la sensibilité que la société attache à ses œuvres. Nathalie Hennick nous explique.
D'une part, je pense que la question des valeurs est intéressante pour comprendre ce qui se passe. On est dans un conflit de valeurs, hein. D'un côté, on a la valeur de l'art, emblématisée par des tableaux célèbres, et notamment des tableaux de Van Gogh, mais pas seulement, hein. Van Gogh est un parmi d'autres, donc c'est pas tant lui qui est en jeu que des tableaux considérés comme de très grande valeur et patrimonialisés, hein, ils sont dans les musées, ils sont pas dans les collections privées. Bon. Donc d'un côté, une valeur considérées comme quasiment absolues, hein, les grandes œuvres de la peinture moderne, et d'autre part une autre valeur qui est la valeur de la préservation de la planète. Bon. Or, ces deux valeurs peuvent être considérées comme l'une et l'autre de très grand niveau, bon, extrêmement consensuelles, et elles se retrouvent mises en tension, mises en contradiction par un geste qui attaque l'une des deux valeurs au nom d'une autre valeur. Bon, donc qui attaque une œuvre d'art au nom d'une autre valeur qui est la valeur de l'environnement. Bon. Donc on est dans un conflit de valeurs et je pense que c'est pour ça que ces actes ont tellement fait parler, hein, et ont tellement poussé des gens à prendre position. Puisque moi ce qui m'a frappé dans ces histoires-là, c'est à quel point les gens tenaient à prendre position, hein, pour ou contre. Mais ça, dès lors qu'on a un conflit de valeurs, ça oblige à se positionner. Donc ça c'est une première chose. Et donc on voit bien comment le discours qui accompagne ces actes est un discours qui en effet interroge l'adhésion à une certaine valeur, celle de l'art, au nom de l'adhésion à une autre valeur. C'est dit explicitement et c'est très clair de ce point de vue-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment, dans les discours de réaction à ces interventions, à ces événements, beaucoup de gens ont critiqué le fait que l'on attaque une œuvre d'art. Bon. Or, ce qu'on a attaqué, c'est l'image d'une œuvre d'art, et pas l'œuvre d'art, puisqu'il y avait une vitre. Aucune de ces profanations, si on peut dire, n'a attaqué l'œuvre elle-même. Okay. Donc ça n'est pas en fait une profanation, puisqu'il n'y a pas de destruction de l'œuvre, il y a une attaque contre l'image de l'œuvre. Et par ailleurs, ce sont, non par hasard, des œuvres extrêmement célèbres, dont on connaît des reproductions, bon, et qui donc relèvent de ce que j'ai appelé le capital de visibilité dans mon livre sur la visibilité. Hein. Ces œuvres ont un capital de visibilité, leur image, leur reproduction circule dans tous les cartes postales, les livres d'art, etc., bon, sur Internet encore plus. Donc elles ont un très fort capital de visibilité, c'est ça qui leur donne leur valeur. Et c'est cette visibilité qu'utilisent les militants pour faire passer un discours. Et donc, d'un point de vue juridique, moi, j'aurais plutôt tendance à qualifier ces actes comme une forme de parasitisme de la gloire. Hein, c'est un terme juridique. On utilise la notoriété et la visibilité d'un certain objet, une œuvre d'art, pour avoir un accès aux médias, pour populariser une cause qui est une cause politique liée à l'environnement. Et de ce point de vue-là, les discours qui critiquent ces actes au nom du fait qu'ils abîmeraient ou profaneraient des œuvres d'art sont des discours qui sont à côté de la plaque, c'est le cas de le dire, parce que ils font comme si on s'attaquait à une œuvre, alors qu'encore une fois, on ne s'attaque qu'à son image, hein, la soupe sur une plaque de verre, recouvrant un tableau de Van Gogh. Et donc là, je pense qu'il faut faire bien attention. D'ailleurs, elles le disent, les filles, hein, elles ne sont pas folles. Bon, elles savent très bien que si elles s'étaient attaquées à l'œuvre d'art, elles seraient en prison alors qu'il est. Bon, voilà, c'est quand même la grande différence. Hein. Donc, juridiquement, elles font un acte qui est certes illégal. Elles se sont introduites dans un musée et elles ont endommagé un élément du musée, à savoir une vitre. Mais c'est un acte qui est juridiquement extrêmement faible, enfin très très faiblement punissable par rapport à ce qu'aurait été le geste de s'attaquer à l'œuvre elle-même. Donc on voit bien là comment, sur la base d'un geste qui est un geste en fait anodin, c'est l'utilisation de la notoriété, de la visibilité de l'œuvre qui fait parler de ce geste et qui, évidemment, permet aux militants de réaliser leur projet, à savoir faire parler de l'environnement, faire réfléchir à l'environnement, au risque, toutefois, que leur geste soit interprété comme une attaque contre une valeur forte qui est l'art, hein, par les gens qui n'ont pas vu que c'était pas l'œuvre elle-même qui était atteinte, mais la vitre qui permet de la protéger. Voilà, donc c'est assez complexe. Il y a des fautes d'interprétation dans ce qui s'est passé. Hein, moi, j'ai entendu des chercheurs apparemment de haut niveau, des philosophes et tout, s'indigner contre la destruction d'une œuvre d'art. Moi, j'ai jamais vu de destruction d'œuvre d'art dans cette histoire-là. En revanche, il y a l'exploitation de la visibilité d'une œuvre d'art. Bon, voilà, on peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, c'est un geste qui a beaucoup moins d'incidence que ce que certains ont pu dire. Le problème, du point de vue de l'efficacité tactique, encore une fois, c'est quand on s'attaque, même symboliquement, parce que l'attaque contre la vitre est symbolique, quand on s'attaque même symboliquement à un objet très fortement doté de valeur par un très grand nombre de gens, est-ce qu'on ne risque pas de produire l'effet inverse de ce qu'on recherchait, c'est-à-dire un rejet de ce geste, plutôt qu'une adhésion au discours qu'il porte? C'est la question qu'on peut se poser du point de vue de l'efficacité tactique.
Comme nous l'avons vu dans notre épisode numéro 2 sur la banane de Catalan, en ce qui concernait particulièrement l'œuvre Fontaine de Duchamp, la notion de parasitisme de la gloire est associée à une connotation négative. Mais comme l'indique bien Nathalie Hennick, la gravité du parasitisme de la gloire nous semble revêtir d'une telle importance pour suffire à justifier à elle seule une attention juridique autonome. En effet, le parasitisme de la gloire, traité par Hennick et Edelman dans le texte « L'art en conflit », a servi dans le cadre de Duchamp pour expliquer ce phénomène. Nonobstant, aujourd'hui nous pensons que, contrairement à ce qu'affirmait Edelman en 2002, le tribunal n'a pas condamné le parasitisme de la gloire, mais plutôt que la prise de conscience sur ce parasitisme a servi à anéantir l'argumentation de la défense, qui prétendait justifier une affectation à un bien juridique protégé par des considérations artistiques. Dans le cas qui nous occupe, nous sommes d'accord avec Nathalie Hennick pour considérer que ce parasitisme ne justifierait pas des retombées juridiques considérables. Comment expliquer donc les retombées juridiques? Dans le cas concret de Just Stop Oil et Van Gogh, gérés donc par l'Angleterre, il paraît difficile de considérer l'État anglais comme un État totalitaire, qui agit de façon autoritaire et sans considération. Ces actions doivent donc se fonder sur une certaine légitimité. En effet, tel que le dit Nathalie Hennick, l'efficacité tactique d'un tel acte paraît, en tout cas de premier abord, être défaillante. Certains textes, en effet, sont critiques de l'action. Par exemple, en France, le magazine Connaissance des Arts ne s'empêche pas de parler de vandale plutôt que de militante et questionne s'il ne s'agit pas ici du bad buzz de trop. De son côté, Candice Delmas, dans la revue Esprit, offrait en décembre 2022 un regard dialectique plus nuancé. Sans hésiter à parler dès le titre de « désobéissance incivile », elle pose le focus de son analyse sur une critique aux médias et les réseaux sociaux, et le fait que nous offrons à ce type d'action plus de visibilité qu'elle ne le mériterait, au détriment d'autres types d'actions qui, elles, seraient plus efficaces. Elle cite une action du groupe Endgeland, par opposition à celle de Just Stop Oil. En effet, le fait de donner de la visibilité à cet acte au lieu d'un autre, c'est une question que nous nous sommes posées au cours de la réalisation de ce podcast. Mais l'art étant l'un des axes thématiques de notre série, nous avons considéré pertinent d'aller ainsi de l'avant. Un troisième exemple de réaction suscitée en France est celle d'Anna Longo, qui sur AOC, justifie et adhère entièrement à la cause de ses militantes et nous invite à les rejoindre dans l'espoir qui nous libère de notre civilisation. Pas besoin de faire du Bourdieu tardif comme Kuntz dans sa série Luxury and Degradation de 1986 pour commencer à entrevoir à ce point que la position occupée par Van Gogh dans l'imaginaire de différents groupes constituant la société n'est pas si anodine. Cela compte aussi pour les juges, leurs croyances profondes, mais aussi leur besoin de déterminer la justice sans trop de décalage avec la notion de celle-ci en possession de leur environnement social. D'un point de vue juridique donc, il paraît fragile le fait de sanctionner les actions qui touchent, symboliquement, des œuvres d'art, mais il paraîtrait que ce sont les considérations de légitimité concernant les sociétés impliquées qui pourraient expliquer, nous ne disons pas justifier, les réactions administratives et judiciaires. Mais, comme nous l'avons constaté au début de cet épisode, et vu tout au long de cette mini-série, la question de l'environnement est particulièrement teintée d'une couleur internationale en ce qui concerne le traitement juridique.
Les États et le juge national doivent comprendre que l'État, et donc le juge, est également lié par des obligations du droit international des droits de l'homme, qui garantit l'exercice de la liberté d'expression, la liberté d'association, de manifestation. Tout ça est couvert par des textes internationaux, mais malheureusement, les États semblent ignorer les engagements auxquels ils sont tenus. Les juges semblent peut-être pas assez formés, pas assez informés de la manière dont ils peuvent utiliser le droit international dans leur jugement. Et je constate que malheureusement, à cause de cette ignorance, ou est-ce délibéré, des militants du climat sont traduits en justice et condamnés à des sanctions parfois sévères. Je pense notamment à ces militants de Just Stop Oil qui ont été condamnés à 27 mois de prison en Angleterre simplement pour avoir brandi une barrière et donc franchi un pont. Je trouve la sanction largement disproportionnée par rapport à l'acte lui-même et surtout par rapport à la cause pour laquelle les militants de Just Stop Oil se sont engagés.
Cette remarque de Michel Forst nous confronte à une problématique concernant la difficulté pour les individus d'assimiler la complexité de la trame législative, surtout lorsque cette trame législative doit incorporer la législation internationale. Et quand nous parlons des individus, certaines fois il s'agit même de juges. Nous avons par exemple senti cette difficulté lors du colloque sur les biens communs tenu par l'IURDJ à Marseille fin septembre 2023. Dans l'analyse sur le droit du travail et écologie menée par Frédéric Géa lors d'un récent amphi d'Amicus, il remarquait également la difficulté de l'articulation du droit international dans le droit interne. Nous ne prétendrons pas être en possession des éléments pour proposer des pistes de solutions à cette problématique, mais nous espérons que lors de notre prochain épisode, le cinquième et dernier sur art, environnement et droit, le fait de confronter ces diverses perspectives nous permettra d'avoir plus de lumière pour transiter au milieu de ces sujets. Pour conclure, revenons à la question des connotations contemporaines de Van Gogh aujourd'hui et le fait qu'il ne représente plus une avant-garde, mais qu'il touche un très large public. En menant cette action, l'intention des militants de Just Stop Oil paraît non tant le fait de vouloir attaquer directement les acteurs qui pourraient arrêter le pétrole, mais plutôt produire un impact sur un public plus large, qui est celui qui construit la légitimité des décisionnaires politiques, administratifs, législatifs et judiciaires. Le choix de Van Gogh, artiste incompris mais compris par tous, semble aller dans ce sens. C'était L'Art au Parloir, un podcast proposé par Amicus Radio en partenariat avec Labyrintho, réalisé par Leobardo Arango et Léa de Lyon. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast. Merci à Nathalie Hainik, Michel Forst, Magali Lafourcade pour leur disponibilité et précieux éclairage.